Bonsoir à tous. Aja Ressouni, gracié par le roi du Maroc, la journaliste condamnée à un an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, elle devrait quitter sa cellule dans les prochaines heures. Avec son fiancé et l'équipe médicale qu'elle a consultée, nous serons à Rabat. Deux chercheurs français détenus à Téhéran depuis le mois de juin, Fariba Adelra et Roland Marshall, inacceptables, dit Paris. On essaiera de comprendre les raisons de leur arrestation. Au sommaire également ce soir, l'ONU préoccupé par la situation humanitaire en Syrie, une semaine après le début de l'offensive turque, la démonstration Irène Frachon, la lanceuse d'alerte au procès du Mediator, la vie d'un réfugié bangladais devenu champion d'échecs au cinéma, et au téléphone sonne Fabienne.
Et bien ce soir on prend des nouvelles de Notre-Dame, 6 mois après l'incendie, chantier en arrêt, peut-on lire ici et là, on verra si c'est le cas. On parlera de l'énormité de ce qu'il reste à consolider avant même de songer à reconstruire, on parlera argent, flèche aussi, c'est à vous de voir, ce sont vos questions, 01 45 24 7000.
France Inter. Le Quai d'Orsay a donc confirmé l'information cet après-midi. Roland Marshall est bien détenu en Iran depuis 4 mois avec sa collègue et compagne Fariba Adelra et il demande, le Quai d'Orsay à Téhéran, dans un communiqué, de mettre fin sans délai à une situation inacceptable. Bonsoir Franck Matvon.
Bonsoir Sébastien.
Le spécialiste de la Corne de l'Afrique et l'anthropologue franco-iranienne ont été arrêtés en juin.
Oui, Roland Marshall a été arrêté au même moment que sa compagne Fariba Adelra, lui à l'aéroport de Téhéran, elle à son domicile, elle vivait alors sur place pour ses recherches. Les deux chercheurs sont détenus à la prison d'Evin dans des conditions difficiles, ils subissent régulièrement des interrogatoires. Roland Marshall est longtemps resté dans une cellule avec des prisonniers iraniens dont il ne parlait pas la langue. Un avocat qui lui a rendu visite la semaine dernière a pu constater qu'il avait été transféré dans une cellule avec des co-détenus parlant anglais. Il a pu recevoir des visites consulaires. Fariba Adelra, elle, n'a pas les mêmes droits. Elle a la double nationalité franco-iranienne. Elle est donc considérée par Téhéran comme une iranienne. Pas de visite consulaire, mais des contacts réguliers avec un avocat.
A-t-on une idée, Franck, des raisons de leur arrestation ?
Alors, les raisons invoquées par l'Iran sont très floues, hein, Sébastien. Atteinte à la sécurité de l'État, espionnage pour le FASOPO, une association de chercheurs dont sont membres Roland Marshall et Fariba Adelra. C'est grotesque. Leurs deux collègues, disent-ils, ne mènent bien sûr aucune activité politique en Iran. Le Quai d'Orsay est sur la même ligne. D'après un diplomate, cette double détention est un gage évident, une sorte d'atout que les Iraniens veulent avoir dans leur jeu pour faire pression sur la France. Emmanuel Macron aborde régulièrement le sujet avec les responsables iraniens, dont le président Rouhani. La France a parfois cru que la situation pouvait se débloquer, mais on sait que plusieurs pouvoirs s'affrontent en Iran et ce dossier très sensible n'avance pas.
Et pour complexifier encore un peu plus les relations entre la France et l'Iran, merci Franck Matvon, un opposant iranien réfugié en France a été arrêté lundi à Téhéran par les gardiens de la Révolution qui le désignent comme un contre-révolutionnaire dirigé par le renseignement français. Des tensions en Iran, la guerre à deux pas depuis maintenant une semaine tout juste, celle de la Turquie contre les Kurdes du nord de la Syrie, désormais soutenue par l'armée de Bachar el-Assad avec l'appui des Russes qui sont aussi alliés d'Ankara, vous suivez. Alors Vladimir Poutine invite son homologue Erdogan au Kremlin pour parler de tout ça. En attendant, le premier rendez-vous diplomatique a lieu en Turquie. Le président turc va finalement recevoir le vice-président et le secrétaire d'État américain. Ils vont tenter de le convaincre de mettre fin à son opération, source de paix, option déjà rejetée un an de l'heure par le président turc.
Le soutien des États-Unis aux forces kurdes de Syrie était déjà l'objet d'une crise rampante entre Ankara et Washington ces 5 dernières années. L'offensive de la Turquie contre ces mêmes forces kurdes risque d'en être le point culminant. Les premières sanctions décrétées cette semaine par la Maison-Blanche, finalement assez limitées, n'ont pas créé beaucoup de remous à Ankara. Recep Tayyip Erdogan estimant que Donald Trump souhaitait surtout apaiser le Congrès. Il en ira tout autrement si le président américain décrète d'autres sanctions, comme il a menacé de le faire, et si le Congrès américain punit à son tour la Turquie avec un projet de représailles qui viserait notamment le président Erdogan lui-même. Le chef de l'État turc a confirmé qu'il rencontrerait ce jeudi la délégation menée par le vice-président Mike Pence, mais on voit mal ce que ces derniers peuvent obtenir de lui. Non seulement Tayyip Erdogan refuse toute offre de médiation avec les forces kurdes, mais il exige leur retrait total et sans leurs armes du nord de la Syrie pour arrêter son offensive. Les relations entre les deux alliés de l'OTAN sont tellement tendues que Recep Tayyip Erdogan, qui avait annoncé dans un premier temps qu'il se rendrait à Washington le 13 novembre à l'invitation de Donald Trump, sème désormais le doute. Il dit attendre sa rencontre avec la délégation américaine pour prendre sa décision. Un an de l'heure, Istanbul, France Inter.
Recep Tayyip Erdogan appelle aussi les Kurdes à désarmer et il exclut toute trêve dans les combats alors que l'armée syrienne est entrée rentrer ce soir à Kobané. Combats qui ont fait plus de 380 morts en une semaine et 160 000 déplacés. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit préoccupé ce soir par la situation humanitaire et par le risque d'évasion de djihadistes. Jean-Yves Le Drian part d'ailleurs ce soir pour Bagdad, notamment pour discuter du sort de ces djihadistes du groupe État islamique, dont des Français.
Le manifeste des hors-la-loi a-t-il été entendu au Maroc ?
Ce texte, signé par 10 000 personnes après la condamnation d'une journaliste à un an de prison pour avortement illégal, c'était il y a un peu plus de deux semaines, on en a parlé ici même, et revirement, ce soir, le roi Mohamed VI gracie Hajar Raissouni. Théa Olivier est à Rabat pour Inter.
La journaliste Hajar Raissouni avait été condamnée le 30 septembre à un an de prison ferme ainsi que son fiancé. Le médecin lui avait écopé de 2 ans de prison pour pratique d'avortement illégal. Des peines lourdes qui avaient indigné les défenseurs des droits humains ainsi que les militants féministes au Maroc. Ils avaient tout de suite demandé la libération des 5 prévenus. Hajar Raissouni et le médecin ont toujours nié l'avortement. La jeune femme a plaidé avoir consulté en urgence pour une hémorragie interne. La journaliste et ses proches ont aussi dénoncé un procès politique lié à son travail journalistique engagé et à sa famille. L'un de ses oncles est rédacteur en chef d'un journal indépendant arabophone, l'autre est fondateur d'un mouvement islamiste d'opposition. Ses proches sont déjà en route pour l'accueillir à sa sortie de prison. À Casablanca, Théa Olivier, France Inter.
Théa Olivier, donc à Casablanca, merci. C'est elle qu'on attendait à la barre au procès du Mediator, la pneumologue Irène Frachon, qui a révélé le scandale en 2010 de cet antidiabétique utilisé comme coupe-faim et responsable de centaines de morts. C'est l'un des témoignages les plus importants des 6 mois de procès et il est très efficace. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Irène Frachon livre une démonstration implacable contre les laboratoires Servier.
Plus de 5 heures d'audition à mi-chemin entre le témoignage de vie et le cours de première année de médecine. Irène Frachon s'inquiète. Ça va? Je ne vais pas trop vite. Venue avec sa chemise cartonnée et sa clé USB, elle décortique graphiques et documents, raconte comment mois après mois, patient après patient, elle s'est transformée en enquêteur face à un puzzle disséminé. Et ça a tenu à un fil. Il n'y aurait pas eu la mort de Joël. Le Mediator serait encore commercialisé aujourd'hui. Ça fait froid dans le dos. Irène Frachon nous plonge dans l'univers de la norfinfluramine, un poison puissant, mortel, explique-t-elle. Projette une photo, c'est le cœur de Marie-Claude, elle prenait du Mediator depuis 6 mois. Maître Charles-Joseph Houdin, avocat de partie civile.
Elle nous parle des victimes, elle nous parle de Marie-Claude, elle nous parle de Martine, elle nous parle de Séphérina. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on parle du Mediator, mais derrière des techniciens, des chiffres, des études, des enquêteurs, tout ce qu'on veut, il y a une réalité humaine. C'est des gens qui sont morts, c'est des gens qui se sont fait opérer, c'est des douleurs, c'est des souffrances. Et ça, le docteur Frachon le remet au milieu du débat. C'est pas un procès de technicien, c'est d'abord et avant tout un procès de victimes qui ont souffert et à qui on a menti.
Irène Frachon raconte encore les procédures judiciaires, celles d'indemnisation, dépeint l'angoisse, la terreur des patients, dit-elle, tour à tour pneumologue, amie, porte-voix, psy, avocate des victimes du Mediator, celle qui explique être devenue persona non grata d'une grande partie du monde médical, est avant tout un témoin à charge très convaincant.
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice de Paris avec Stéphane Beaufils. Merci à tous les deux, à toutes les deux. À la page justice encore du nouveau dans l'affaire Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault. L'enquête qui vise Rachida Dati et Alain Bauer est désormais confiée à 3 juges d'instruction. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Il s'agit de contrats de conseil signés avec l'ancienne garde des Sceaux et le criminologue.
Oui, des contrats douteux de par leur montant, selon l'avocat à l'origine de la plainte déposée dans cette affaire. Rachida Dati aurait perçu entre 2010 et 2012 en tout près de 900 000 euros pour des missions d'avocate pour le compte de l'Alliance Renault-Nissan. L'Alliance qui disposait alors d'une société aux Pays-Bas, mise en place sous Carlos Ghosn et baptisée RNVB. La justice soupçonne des mouvements de fonds suspects via cette holding. Et c'est justement car cet argent a transité par RNVB que le nom de Rachida Dati est aujourd'hui cité. L'avocat de l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy dénonce une volonté de nuire à sa cliente alors qu'elle tente de se positionner pour les municipales à Paris. Autre personnalité au cœur du dossier, vous l'avez dit, Alain Bauer, le monsieur sécurité de la marque aux losanges que Carlos Ghosn aurait missionné après la vraie fausse affaire d'espionnage connue par l'entreprise en 2011. Sa société aurait perçu 1 million d'euros entre 2012 et 2016. L'intéressé reconnaît des missions toutes conformes et se demande bien ce qu'on pourrait lui reprocher.
Décrocher un portrait d'Emmanuel Macron au nom de l'urgence climatique n'est pas la même chose que le faire à Paris. La relaxe, il y a un mois à Lyon, pour 2 décrocheurs, 500 euros d'amende pour chacun des 8 militants écologistes poursuivis dans la capitale. La juge a considéré que l'état de nécessité invoqué à Lyon n'était pas constitué. Les 8 activistes sont reconnus coupables de vol en réunion. Ils font appel.
Le CFCM livre sa contribution au débat sur le voile.
Après la provocation d'un d'un élu Rassemblement National au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté qui voulait faire sortir une femme voilée qui accompagnait des élèves. Le sujet divise jusqu'au sein du gouvernement et de la majorité. Le Conseil français du culte musulman dénonce une rhétorique d'extrême droite outrageusement banalisée et des réactions hystériques sur le sujet. La polémique donc se poursuit. Emmanuel Macron en dira peut-être un mot ce soir depuis Toulouse où il est avec Angela Merkel. En attendant, direction Besançon où a lieu un rassemblement, où a eu lieu un rassemblement de soutien à cette femme visée par l'élu RN. 200 personnes dont la présidente de la région et Fatia venue dire non à l'intolérance au micro de Christophe May.
Je suis choquée de ce qui se passe parce que effectivement l'ambiance actuellement est lourde. Les propos xénophobes sont aujourd'hui, la parole est libérée. Il y a quelque chose qui va pas quoi. Et là, ce qui s'est passé, ça a été violent. Je pense que il y a un accro au vivre ensemble et il y a une blessure qu'on est en train d'infliger à nos enfants, une blessure qui les fait intégrer. Le fait que ce sont des citoyens à part. Donc moi aujourd'hui je suis venue dire non, nous sommes des citoyens à part entière et non pas des citoyens à part.
Voilà pour ce rassemblement à Besançon et à propos de la conférence de presse d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel en ce moment à Toulouse. Elle se poursuit. Les deux leaders politiques viennent de prendre la parole. Angela Merkel estime que sur le Brexit, nous sommes dans les derniers mètres de la négociation. Quant à Emmanuel Macron, il dit que d'après ce qu'il a entendu ces derniers jours, il espère un accord dans les prochaines heures. Voilà les deux déclarations à l'instant sur le Brexit. Macron qui espère un accord dans les prochaines heures et Angela Merkel dans les derniers mètres. Une première journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Ce sera le 5 décembre. Et pour une fois, à l'appel unitaire des syndicats, CGT, FO, FSU et Solidaires et de quatre organisations de jeunesse, plusieurs syndicats de la RATP et de la SNCF appellent à une grève illimitée à partir de cette date. La grève aussi chez Conforama, le pays où la vie est moins chère et où les magasins ferment. 32 magasins de fermeture annoncés, plus 10 enseignes Brico-Dépôt, 1900 suppressions de postes sur 9000 salariés au total. 8 magasins avaient baissé le rideau aujourd'hui pour protester, début d'une grève illimitée à l'appel de trois syndicats. Parole ici de salariés du Pont Neuf à Paris au micro de Maxime Deps. Ils ne veulent pas de prime de licenciement inférieure à 2500 euros.
C'est une colère froide parce qu'on a donné tout à cette entreprise et on est remercié, voilà comment on est remercié avec des indemnités qui frisent le ridicule. Donc qu'ils veuillent nous foutre dehors, c'est une chose, mais qu'ils le fassent au moins dignement.
On part avec au moins, avec des mesures d'accompagnement et de départ au regard du préjudice qu'on est en train de subir. On a quand même consacré pour certains jusqu'à 40 ans dans cette entreprise. Et la considération qui est, c'est partir avec 2500 euros. Je me dis que c'est pas possible.
Déjà, c'est dur pour qu'on nous annonce qu'on va fermer. Après qu'on nous annonce que voilà, vous avez fait 10 ans, vous allez avoir 1000 euros, vous allez faire 10 ans, vous allez. C'est très dur. Moi, je pense qu'il faut que l'État il réagisse sur ça. On a des enfants, on a des familles, donc il faut faire quelque chose. Il faut que l'État il fait quelque chose.
Direction et syndicat de Conforama ont de nouveau rendez-vous mardi prochain.
Ils sont restés 9 ans dans une petite pièce fermée.
Oui, histoire hallucinante dans un village du nord des Pays-Bas. Un père, ses 5 enfants découverts à l'intérieur d'une ferme, reclus, sale. Ils attendaient la fin des temps, disent les médias locaux. C'est l'un des fils de 25 ans qui est venu demander de l'aide dimanche soir dans un bar du village. La police Antoine Moutot annonce qu'un homme est en garde à vue.
L'homme de 58 ans, arrêté hier dans le village de Reunerwold, doit comparaître demain devant un juge d'instruction. C'est en tout cas ce qu'a indiqué aujourd'hui le parquet. Les autorités néerlandaises le soupçonnent officiellement d'avoir séquestré d'autres personnes et d'avoir ainsi nui à leur santé. Hier, des policiers néerlandais avaient découvert 6 personnes dans une petite pièce d'une ferme isolée. La police avait alors expliqué qu'il s'agit probablement d'une famille, un père et ses 5 enfants. Aucune des personnes retrouvées n'était connue des autorités locales. Le parquet donne pour l'instant très peu de détails sur l'identité du suspect. Les médias locaux, eux, parlent d'un homme du nom de Joseph B. qui serait originaire d'Autriche. Selon certains journaux néerlandais, il n'est pas établi que l'homme arrêté soit le père des enfants retrouvés. Un 6e enfant de la famille, un homme d'une 20aine d'années, se serait d'abord échappé avant de donner l'alerte dans un bar du village qui a lui contacté la police. La Haye, Antoine Moutot, France Inter.
Elle devait essayer de ramener le calme après plus de 4 mois de crise politique. Carrie Lam n'a pas du tout réussi ce matin à Hong Kong. La chef de l'exécutif a dû arrêter son discours de politique générale, une première depuis 1948. Huée, chahutée par les parlementaires pro-démocratie, elle a fini par quitter le parlement local et une vidéo enregistrée de son discours a été diffusée. Les manifestants appellent à manifester de nouveau dimanche et une députée norvégienne propose le peuple de Hong Kong au prix Nobel de la paix l'an prochain. La Catalogne, toujours sur des charbons ardents depuis la condamnation des dirigeants indépendantistes à des peines de 9 à 13 ans de prison. Des manifestations tous les soirs avec des violences, une cinquantaine de personnes arrêtées, 125 blessés. 5 marches de la liberté sont parties ce matin de toute la région pour arriver vendredi à Barcelone. Anne-Natacha Bouillon est dans celle qui a quitté Gérone.
Près de 10 000 personnes sont parties ce matin de Gérone. Elles étaient plus de 15 000 ici à Sils, où elles ont fait une pause. T-shirts et drapeaux catalans, toutes crient pour la liberté des prisonniers politiques et la démocratie en général. Un mouvement pacifiste, disent les organisateurs, pour dénoncer l'injustice dont sont victimes les Catalans, l'a montré haut et fort à la société internationale. Mais au-delà du message politique, c'est l'union, la motivation, les efforts de tous qu'ils veulent prouver. Jeunes, moins jeunes, travailleurs qui ont pris une journée, une demi-journée, grossissent le cortège à chaque passage dans les villages. La sentence du tribunal lundi a été un coup de massue, mais tous restent debout, ils le montrent et ils marchent.
Anne-Natacha Bouillon depuis Sils en Catalogne. La Ligue espagnole de football demande de son côté que le prochain Classico prévu dans 10 jours à Barcelone soit joué à Madrid pour des raisons de sécurité. C'est la fin du feuilleton franco-italien. L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci sera bien au Louvre pour les 500 ans de la mort du maître toscan. La justice italienne, saisie par une association de défense du patrimoine, a tranché. Elle ne s'oppose pas à la sortie du territoire du célèbre dessin qui est conservé à la galerie de l'Académie à Venise et assuré pour une valeur d'1 milliard d'euros. On termine avec une histoire découverte sur Inter en 2012 grâce à une auditrice qui interpellait le Premier ministre de l'époque, François Fillon. Histoire d'un jeune Bangladais sans papier devenu champion de France d'échecs. Il a raconté son parcours dans un livre, Fahim Mohamad. La voici, cette histoire désormais au cinéma, Fahim, réalisé Corinne Pellissier par Pierre-François Martin Laval.
Il a dû fuir son pays, le Bangladesh, quand il avait 8 ans, menacé de mort à l'époque à cause de son talent pour les échecs. Une histoire parmi tant d'autres, celle de Fahim Mohamad, arrivé en France avec son père et seulement quelques billets en poche il y a 7 ans.
Bienvenue à France, t'es au Brésil.
Il y a un nouveau.
Touché par son parcours, le comédien réalisateur en a fait un film hyper réaliste et touchant, basé sur son témoignage, l'apprentissage de la vie en France, la difficulté d'obtenir des papiers, et puis surtout la rencontre qui a tout changé, celle du mentor Gérard Depardieu dans le rôle du professeur d'échecs qui conduira le garçon jusqu'au titre de champion de France des moins de 12 ans. Un sale caractère, mais un grand cœur.
Il est un petit peu dur.
Tête d'huître.
Ça a pas de tête, une huître.
Un peu bourru, quoi.
Fais chier.
Je suis sûr que vous allez très bien vous entendre.
Et qu'est-ce qu'il veut, lui ?
I want to be champion of the world.
Il n'y a pas de sport plus violent que les échecs.
Terminé aujourd'hui le temps où il vivait dans la rue, désormais majeur, Fahim a obtenu pour un an sa première carte de séjour et vient de passer son bac. Son grand rêve, continuer les échecs bien sûr, et intégrer une école de commerce pour devenir gestionnaire de patrimoine.
Je suis fier d'être votre professeur.
Fahim de Pierre-François Martin Laval, 7 en salle aujourd'hui.
Eh bien super, merci beaucoup Sébastien Paour.